Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marjolaine Rivet-Beaugard et Justine Fortin. Elles nous parlent de la ressource sans but lucratif « Sors de ma tête ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet « La peur de l'engagement ». Notre invité en début de deuxième demi est Cédric Dagenais. Il nous informe sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Caïn. La chanson s'intitule « Je sais plus comment t'aimer ». Bienvenue chez nous.
La saison rouge enterre ses cendres. Et j'ai la blouse au cœur, les mots au ventre, des tas de feuilles mortes à place des gens. Perdu comme un livre dans une école fantôme. J'sais pas si c'est l'effet que ça me fait quand l'hiver gronde ou la panne. Je sais plus comment t'aimer. Sans me sentir mal de moi. Je sais plus comment t'aimer. Demain je ferai un homme de moi. Je jouerai. Je trouverai les mots qu'il faut. Je prendrai tout sur mon dos. Tu vas me traiter de lâche, de cœur de fente. Me diras que j'ai pas le droit de prendre le temps qu'il faut, d'aller voir ailleurs, de faire tout ce qu'il faut pour sauver notre bonheur. De penser aux enfants, au rêve qu'on avait avant. J'sais plus comment t'aimer. J'resterai plus jamais assis devant ma télé à regarder ma vie passer sans même pouvoir y jouer. Mais j'sais plus comment t'aimer. Sans me sentir mal de moi. J'sais plus comment t'aimer. J'sais plus comment t'aimer. J'sais plus comment t'aimer.
Vous écoutez Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. J'accueille maintenant mes invités. Alors, Justine Fortin, bonjour Justine.
Bonjour.
Et Marjolaine Rivet-Beaugard, bonjour Marjolaine.
Bonjour.
Mes invités, parce que vous n'êtes pas à titre de chroniqueuse aujourd'hui, vous êtes à titre d'invité, parce qu'on veut tout savoir sur l'OSBL, sort de ma tête, parce que vous en avez parlé à quelques reprises dans vos chroniques, comme quoi vous œuvriez dans un podcast, entre autres, sort de ma tête. Là, c'est devenu un OSBL, je veux tout savoir, là, confiez-vous. Et puis, Marjo, est-ce que tu veux commencer? Ça part d'où? D'abord, juste refais-nous un résumé de qui vous êtes.
Donc, on est deux étudiantes au doctorat et puis on s'est rencontrées vraiment dans le cadre de la recherche. Donc, les deux ont fait la recherche en santé mentale.
Ouais.
Et puis, on s'est rendu compte à travers plusieurs appels des fonds de recherche du Québec pour justement promouvoir la recherche à travers les réseaux sociaux, donc à travers des pages Instagram, à travers des podcasts, donc pour vraiment aller donner de l'information sur la santé mentale. on s'est rendu compte que ces sujets-là étaient très peu discutés. Donc, c'est vraiment de là que notre idée de podcast était venue. Et puis, une fois qu'on a fait le podcast et qu'on avait vraiment apprécié l'expérience, on s'était rendu compte que c'était un sujet qui méritait plus d'attention et puis qui n'était pas courant. Donc, on voyait des gens, par exemple, on voyait des organismes à but non lucratif qui œuvraient dans le communautaire, mais on voyait très, très peu d'étudiants ou de chercheurs qui étaient impliqués. Donc, il n'y avait pas encore ces connexions-là entre le monde de la recherche et la communauté générale. Donc, c'est vraiment de là qu'est sortie l'idée de « ben let's go, on est des chercheuses, on a les connaissances scientifiques, on a le bagage ». Et on veut vraiment apporter ça à la communauté.
Et souvent, la recherche, comme vous en aviez déjà parlé dans d'autres passages ici, vous disiez que la recherche, tu sais, il y a un manque au niveau de un peu de l'expliquer à la population, tu sais, de rendre ça, de décomplexifier peut-être la chose. Là. Fait que c'est un peu ça aussi, je pense, votre podcast sort de ma tête. Hein.
Oui, c'est ça. On veut vraiment vulgariser. Donc, on sait que c'est la population qui finance la majorité des projets de recherche qu'on a au Québec. Merci pour ça.
Par nos impôts et tout.
Exactement. Là. Mais notre retour à la population, en ce moment, il n'y en avait pas beaucoup. Ça restait vraiment restreint à la communauté scientifique par des congrès scientifiques ou des articles scientifiques. Et là, les gens, ils savent même pas dans quoi ils investissent leur argent. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'aller vulgariser nos résultats pour que ce soit accessible vraiment à tous et à toutes. Et le podcast était une de ces voies pour aller rejoindre les 18-35 ans, là, par exemple.
Vous êtes la nouvelle génération de chercheuses.
Oui.
Tu sais, dans la vingtaine, puis vous commencez votre carrière, dans 30 ans, peut-être, vous aurez amener un nouveau style parce que les anciens vont être partis à la retraite. Puis ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose de motivant, puis il y a quelque chose qu'on sent que c'est inépuisable. Je ne sais pas si c'est un peu votre feeling là-dessus aussi. Là.
Mais je pense qu'on fait vraiment partie des premières générations, comme tu viens tout juste de le mentionner. Puis ça l'a déjà été fait dans le passé, ça l'a été fait avant. Donc, par exemple, je pense à ma co-superviseure Manuela Ferrari, qui est extrêmement impliquée dans le transfert des connaissances, que j'ai appris récemment qu'elle a vulgarisé ses projets dans le fond, ses résultats doctoraux en une vidéo avec une danse interprétative qui est très, très, tu sais, qui sort énormément de la barre.
Ça sort de l'ordinaire, là, ouais. Mm-hmm.
Tu vois pas ça souvent, donc ça existait avant, mais l'importance qui est accordée à ce genre de projet, à ce genre d'activité, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Donc, il y a les Fonds de recherche du Québec qui investissent, avec Rémi Quirion, qui investissent énormément depuis les dernières années, puis on fait vraiment partie comme un peu de leur guinea pig. C'est un peu ça qu'on est en ce moment, honnêtement. Ou c'est comme ça qu'on était avec le podcast. C'était vraiment les premières générations de comme, OK, il y a une crise, il y a la COVID. Faut qu'on agisse maintenant. Faut qu'on mette la bonne information dans l'univers des réseaux sociaux. Ouais. Puis on a fait partie de cette gang-là. On est super excités d'avoir fait partie de cette gang-là et d'en faire encore partie aujourd'hui. Puis c'est vraiment cette génération-là qu'on regarde, qu'on grandit avec eux. On explore plein de choses avec eux, puis on sait qu'on est la génération, puis le groupe qui va perdurer dans ces activités-là. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose de motivant puis de vraiment drivant avec ça.
Parce que ce qu'on peut percevoir, des gens qui ne sont pas en recherche, ils se disent qu'il doit y avoir un paquet de belles choses qui se font, puis plein de découvertes, puis plein de concepts. Mais c'est juste que si on ne les reçoit pas, si ça reste dans un petit monde, puis moi, je ne vois pas, j'ai jamais été dans un colloque de chercheurs, mais à quelque part, c'est de démocratiser la chose puis l'amener aux gens pour que ceux qui veulent en savoir plus, ben c'est certain que ça va nous apporter quelque chose. Hein.
Oui, puis on essaie de le faire d'une manière vraiment le fun. T'sais, on invite, par exemple, sur nos podcasts, on va inviter des créateurs de contenu qui sont connus de la population générale. Donc, des fois, juste de voir des experts qu'on connaît pas, ça nous intéresse pas nécessairement quand on choisit un podcast. Mais là, on leur amène des gens qu'ils connaissent, auxquels ils s'identifient. Puis on les amène sur nos podcasts ou dans nos projets pour être sûr où on prend des voies aussi de communication qui, pour eux, ça vient les rejoindre. Par exemple, les 18-35, donc on est sur Instagram au lieu d'aller par courriel, par exemple, si on voulait rejoindre une autre type de tranche d'âge. Donc, on essaie aussi de s'adapter à la population qu'on essaie de viser justement avec notre OSBL précisément aussi.
Avant de commencer ce podcast-là, est-ce que vous aviez déjà participé à des émissions ou aviez-vous déjà la fibre un peu communicatrice ou ça s'est un peu inventé?
On n'avait aucune expérience. On n'avait rien fait. Puis c'est vraiment dans les dernières années que moi puis Justine, ça a vraiment fait « let's go », c'est tout ou rien. Puis je pense qu'il y a un truc que tu as mentionné un peu plus tôt sur lequel je souhaitais revenir, c'est l'idée de démocratisation. C'est hyper important parce que c'est pas juste au niveau de la dissémination des connaissances puis de la vulgarisation qu'on perçoit ça, mais c'est aussi au niveau de la... Donc maintenant, ce qui est mis de l'avant, c'est la recherche participative, c'est l'organisation d'événements participatif. Donc, ce qu'on veut dire par participatif, c'est qu'on invite les gens de la communauté à s'impliquer dans la prise de décision pour justement se distancer de la pensée de comme, mais je suis un expert, je sais ce que tu as besoin, donc je te le mets dans le fond de la gorge. Mm-hmm. C'est vraiment, on invite les gens à participer. Puis je pense que c'est vraiment là aussi qu'on s'enligne avec l'OSBL de, on veut s'assurer que ce qu'on produit, oui, on le fait par intérêt personnel, mais on veut aussi produire des choses qui vont avoir un intérêt pour la population. Donc, je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais je pense que pas mal toutes les activités qu'on va planifier à partir de maintenant, on va impliquer des gens de la communauté pour s'assurer que ça répond à un besoin aussi. Donc, c'est vraiment la démocratisation de tout ce qui se passe.
Avez-vous comme défini la mission de votre OSBL? Des fois, on veut savoir, tu sais, ça peut changer dans les années, parce que c'est tout récent, vous avez fondé ça fin 2022. Ça commence, en fait, en 2023, votre OSBL. Mais est-ce qu'il y a une mission claire, nette et précise? Souvent, c'est ça, en une phrase, est-ce qu'on est capable de résumer tout ce que vous voulez faire dans les prochaines 30 ans, par exemple?
Je sais pas, une phrase. Nous, on arrive toujours avec nos trois grands volets, soit de déstigmatiser tout ce qui est en lien avec la santé mentale, les réactions psychologiques aussi qu'on peut avoir face à différents événements, différentes choses. On a aussi le désir de bâtir une résilience collective, donc pas juste de parler du négatif ou de la santé mentale, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire positivement, concrètement, pour se relever face justement à des symptômes de détresse psychologique, ou un trauma ou des choses comme ça. Donc, on veut vraiment trouver les outils abordables puis accessibles pour la population. Puis, il nous en manque un. C'est comme la promotion de la santé
promotion,
mentale.
Promotion, si prévention, large, là, c'est ouais. Ça. Parce que ça reste une grande famille, tu sais, en termes d'organismes, souvent.
C'est ça.
Effectivement. Donc, vous avez eu le besoin, en fait, parce que vous aviez déjà fait le podcast, mais vous avez eu le besoin de faire l'OSBL pour peut-être des raisons aussi fiscales, dans le sens pour faire des demandes de subventions, choses comme ça, parce que ça passe par l'argent aussi. C'est beau avoir de la volonté, mais dans votre travail, vous allez peut-être avoir des revenus de comme enseignante, mais vous allez peut-être aussi avoir des revenus de ça, parce que c'est ça qui permet que vous puissiez œuvrer dans le domaine.
Hein. C'est un peu ça l'objectif. C'est vraiment pas des raisons fiscales personnelles, parce qu'on est étudiante, puis on a un peu accepté le fait qu'on va être pauvre pendant plusieurs années, mais c'est vraiment que pour des projets dans le but, dans les objectifs de sensibiliser pour la santé mentale, mais on se rendait compte que si on est en tant qu'étudiante, puis en conservant notre identité individuelle, on était très, très limité dans les demandes de fonds qu'on pouvait aller chercher par rapport aux projets spécifiques.
Comme individu personnel, tu peux pas comme pas faire de demande. Faut que tu aies une entité, une compagnie, en fait, sans but lucratif, c'est ça?
Exact. Donc, on était limité à tout ce qui était fonds de recherche du Québec, puis donc tout ce qui est aussi...
Même les fondations, peut-être, là. Ça, vous deux, c'est ça, ça pourrait... Ouais.
Oui, puis c'était vraiment difficile à aller chercher. Donc, c'est... T'sais, les fonds de recherche du Québec investissent énormément, mais c'était quand même pas suffisant. Donc, puis c'est très limité aussi parce qu'eux, ils investissent surtout dans la recherche. Donc là, si on voulait faire quelque chose qui cherchait à sensibiliser les gens puis à rassembler les gens, mais sans nécessairement faire une activité de dissémination, mais on se retrouvait un peu là à rien faire puis à pas trop savoir où aller chercher. Donc, en ayant cette entité-là maintenant... On a une justification, on a une entité, on a des objectifs, on a des buts, on est reconnu. Donc là, on veut vraiment chercher ces possibilités-là de faire des projets puis d'arrêter de les faire à nos dépens ou de les faire avec aucun budget. Donc, veux pas, où est-ce que tu dois un peu... Faut que tu balances entre la qualité, puis donc...
Tu peux pas aller au bout de ce que tu veux faire quand tu as les ressources. Tu peux même engager quelqu'un pour venir t'aider dans des domaines. Puis, parce que c'est difficile de tenir ça à deux personnes. Là. C'est quand même une grosse tâche. Ça a l'air facile pour les gens de l'extérieur, mais quand on produit quelque chose, vous le savez, là, produire, nous, on produit l'émission chaque semaine, puis ça prend énormément d'heures. Puis la même chose quand vous faites le podcast, je pense que ça doit être la même chose.
Oui, puis ça amène aussi une crédibilité de pas dire Marjolaine et Justine ont fait un podcast, mais maintenant, sort de ma tête est plus grand que nous. Je trouve que ça amène aussi une crédibilité qu'on veut faire des collaborations, en plus même d'aller chercher de l'argent. Là. Donc,
ouais.
Ça a été vraiment aidant, je trouve. À date, on voit vraiment une différence là, depuis qu'on est un OSB.
Comment vous voyez genre les 5 prochaines, les 10 prochaines, les 20 prochaines années? C'est dur à se mettre... Mais peut-être quelles sont vos aspirations pour sort de ma tête?
Mais je pense que, pour commencer, il va y avoir un aspect formation de la relève. Donc, on veut pas être... Donc, maintenant, on est juste deux. On aimerait ça être plus. On aimerait ça pouvoir continuer à coordonner, à être impliqué. Mais on veut que ça grossisse sans être les seuls à porter ça sur nos épaules. Donc, il y a vraiment un aspect de on veut vraiment mentorer des personnes, des étudiants qui vont être intéressés à continuer à porter le projet puis à faire valoir les objectifs avec nous. Mais il y a aussi tout plein d'activités qui sont dans le pipeline en ce moment. Justement, c'est de ça qu'on discutait avant de venir assister à l'entrevue. Mm-hmm. On sait pas à quel point on veut donner des détails, mais par exemple, on peut dire que tout récemment, on a sorti une vidéo sur justement l'expérience des femmes en recherche. Donc, dans le cadre de la Journée internationale des des femmes et des filles de sciences. Mm-hmm. Donc, c'était super intéressant.
Qui a lieu, je pense...
C'était le 11 février.
11 février, ouais. Comme à chaque année, c'est le 11 février,
oui.
C'est ça?
Ben,
donc,
oui,
11 février dernier, ouais.
Puis, dans le fond, c'était super fascinant. On a reçu donc un total de 4 femmes en recherche qui avaient un parcours très inspirant et différent, qui nous ont parlé de leur expérience, donc provenant de 4 générations différentes quand même. Où est-ce qu'elles en étaient rendues? C'était quoi leurs conseils? Donc, vraiment des vidéos qui vont chercher à motiver. Puis nous, on tripait à faire ça. Mm-hmm. Ça a pris énormément, énormément de temps, mais on a vraiment tripé. Mais de continuer à faire des vidéos selon la demande puis selon les besoins qu'on identifie, ça fait partie des activités qu'on veut continuer à faire. On aimerait commencer à se lancer peut-être dans l'organisation d'activités comme des conférences pour la population générale.
C'est ça, ça peut toucher à beaucoup de choses. Hein. Ça dépasse la production. Il y a toutes sortes de... Dans votre champ d'intérêt, tout est à venir, en fait. Mais il reste 30 secondes, à peu près. Comment on fait, Justine, pour vous trouver l'OSBL, votre podcast? Est-ce qu'on fait juste chercher « Sort de ma tête »
ou... Oui, « Sort de ma tête », on devrait être les premiers à sortir. Donc, on a notre page Instagram. On arrive bientôt sur TikTok. Donc, on va avoir le même nom aussi, « Sort de ma tête mm-hmm. ». On peut nous contacter par courriel pour des collaborations. Donc, « Sort de ma tête 3 à commercial@gmail.com ». Et dans le fond, c'est nos podcasts sont accessibles vraiment sur toutes les plateformes. Puis, on a une chaîne YouTube au même nom pour les vidéos, s'il y en a qui veulent.
Il y en a plusieurs qui sont déjà présents sur toutes sortes de sujets. Merci beaucoup, Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Bourgard. Bonne continuation, puis à la prochaine.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
passion.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre, ton sujet cette semaine, la peur de l'engagement.
Oui, un sujet qui est très à la mode et je dirais depuis déjà plusieurs années.
Depuis longtemps.
Certainement au Québec.
Ça arrive souvent qu'on parle de ça. Les gens ont peur de s'engager. On parle souvent dans les couples.
En vie de couple, oui.
C'est pas mal ça que.
C'est peut-être pas la même chose ailleurs dans le monde. Je sais pas.
Il y a des sociétés peut-être moins, sont peut-être pas au même niveau, non?
Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Chute du nombre de mariages, une tendance à long terme ». Et j'ai pris cet article sur le site journalmétro.com. C'est écrit par une dame du nom de Catherine Desautels. Elle est journaliste pour la presse canadienne. Alors, celle-ci nous dit « De prime abord, il est à noter que le Québec est le leader mondial d'union libre. »
On est premier dans ce domaine.
Il faut bien qu'on soit premier
à quelque part. On est champion dans bien des affaires, mais ça, je ne savais pas.
Alors, de plus, ce sont surtout les Canadiens français d'origine catholique qui ont délaissé le mariage, souligne la professeure à l'Institut national de recherche scientifique, Mme Hélène Bello.
Autrement dit, les Québécois.
Exactement.
C'est pas mal ça.
Oui. Elle nous dit le mariage, c'est une cérémonie sociale. La raison pour laquelle les gens se marient aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'ils s'aiment, pour la tradition, pour des questions religieuses et parfois pour le côté festif.
Puis pour les cadeaux, peut-être. Hein? Il y a des cadeaux, des fois.
Sûrement, ça va avec. C'est vrai que
ça va avec.
Des fois, c'est souvent un méchant party, comme on
peut
dire.
Les gens qui y vont, des fois, ils vont pour le buffet aussi. C'est pas juste pour le mariage.
Un bon buffet gratuit, c'est toujours intéressant.
Toujours bien.
Alors, de nos jours, ce rite peut entraîner des conflits, par exemple, si on n'invite pas certains membres de sa famille ou encore des amis qui, eux, nous avaient invités à leur mariage. Ça peut être vu comme une affront, explique la professeure.
Ouais.
Madame Hélène Bellou nous dit « C'est clair que pour les Canadiens français, ce n'est plus un rite de passage, mais ça l'est dans d'autres cultures. Pour beaucoup de communautés culturelles, c'est extrêmement important encore. »
Et je pense que ça va par vague, parce qu'il y a des moments où les gens peut-être ressentent, je sais pas, il arrive des événements, puis ils se disent, on dirait que il y a quelque chose de sécurisant, il y a quelque chose comme justement une tradition.
Sûrement.
Là,
ouais. Oui, sûrement. Maintenant, dans un autre article que j'ai pris sur le site marieclaire.fr, un article qui s'appelle « Peur de l'engagement, s'empêcher d'avancer par peur du rejet ». Et c'est écrit par une dame du nom de Gwendoline Goudichaud, qui est journaliste pour marieclaire.fr. Alors, cette madame Goudichaud nous dit « Trop jeune pour se marier ou pas de relation sérieuse pour garder sa liberté. La peur de l'engagement se décline sous toutes les formes, mais loin d'une prétendue immaturité, c'est un mal qui cache d'anciennes blessures. »
Ah bon?
Dans un couple, le blocage de l'un des partenaires au moment de l'engagement nourrit les tensions. Quelle que soit la nature de ce dernier, il est primordial de comprendre d'où vient cette appréhension afin de pouvoir s'en défaire et avancer à deux. Mais comment la reconnaître? Est-il possible de la gérer? Comment accompagner un partenaire effrayé par l'engagement? Catherine Demangeau, thérapeute de couple, nous donne les clés pour passer au-dessus de cette peur. Alors, elle nous dit, tout d'abord, il est primordial de définir quels engagements on veut construire. Il y a des engagements avec un statut légal, comme le mariage ou d'autres, qui sont seulement affectifs ou sexuels. C'est important de noter qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre en couple. Il y en a des milliers. Le tout est de savoir quel est l'engagement qui nous convient le mieux. Ainsi, je ne crois pas qu'il existe une peur, mais bien plusieurs, dans la problématique d'engagement. Quand on s'engage, on a souvent peur de se tromper, de partenaire notamment, ou de ne pas être tout à fait sûr de vouloir s'engager. Il arrive aussi qu'on soit tenaillé par la peur de se dévoiler, parce que pour qu'on veuille s'engager et qu'on puisse le faire de manière satisfaisante, il faut apprendre à le faire en s'acceptant tel que l'on est. Ça, c'est peut-être moins facile.
Ça, c'est le défi d'une vie, des fois. Hein?
Oui, c'est vrai, oui. La dernière peur est celle de se dénaturer. Beaucoup de gens qui entament une relation avec une autre personne se dénaturent pour plaire. Ils veulent se montrer le plus parfait possible, sauf que la perfection n'existe pas et que la sincérité dans l'engagement, c'est indispensable.
Une des plus graves erreurs, ça, d'ailleurs, d'essayer de ne pas être soi-même. Tu sais, on a beau,
c'est naturel,
on a beau sortir notre meilleur, oui. C'est vous, mais il ne faut pas sortir quelque chose qui n'est pas de nous.
C'est, oui. Exactement.
C'est un peu ça, là.
Alors, Catherine Demangeau nous dit « Souvent, on redoute le rejet ou l'abandon car la peur de l'engagement a un lien avec des blessures anciennes. La construction du couple, c'est souvent très régressif et ça nous renvoie à la manière dont on a construit notre lien d'attachement avec notre premier objet d'amour qui, en général, est la mère ou la personne qui a tenu lieu d'éducateur. C'est en famille qu'on apprend à construire une relation et c'est dans l'interaction avec cette figure de référence au premier temps de la vie qu'on intègre ou non un certain niveau de sécurité par rapport à la relation. Si quand je pleure, ma mère arrive et répond à mes besoins, je construis un sentiment de sécurité intérieure qui fait que j'ai confiance en la relation que je suis en train de construire. On appelle ça le lien d'attachement sécure. Quand on grandit avec ce lien, on n'a pas tellement peur de l'engagement parce qu'on sait qu'il peut être fluctuant. La personne face à moi est pleinement présente pour moi quand elle l'est, mais je sais aussi que quand elle s'absente, elle continue à exister dans mon psychique. Ainsi, une absence ne génère pas en moi une angoisse ou un sentiment d'abandon. En revanche, chez les enfants qui ont eu de grandes carences affectives et qui ont eu des parents qui n'étaient pas disponibles, violents ou indifférents, c'est le cas des enfants qui ont un parent en dépression. La personne est présente physiquement, mais est absente dans la relation. Ça crée de l'anxiété relationnelle, doublée d'une peur de l'abandon. Catherine Demangeau nous dit « Par un évitement de l'engagement ou alors par un engagement partiel, comme ne pas accepter une relation avec une forme d'exclusivité sexuelle et affective aussi. Par contre, c'est une peur dont certaines personnes ne sont pas toujours bien conscientes et il y a souvent une grosse part de déni dans les problématiques d'engagement. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et je continuerai plus tard. Et ça, je m'engage à le faire.
Oui, c'est ça. T'as pas peur de t'engager pour la deuxième partie. Merci. Plus tard à l'émission, la peur de l'engagement.
Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce.
J'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Cédric Dagenais. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Tu es chroniqueur à la revue Mentalité de ouais. Maison L'Échelon. Et tu es un individu aussi. Est-ce qu'on peut dire ton âge ou non?
Oui, sans problème. Au fond, j'ai 30 ans.
30 ans, OK.
Oui, 30 ans.
Parce que pourquoi je te pose ça, des fois, c'est bon à savoir parce que tu vas nous parler un peu de ton cheminement au niveau santé mentale. Tu as quand même eu certaines difficultés. Puis on va aussi démystifier tantôt une problématique qui est bien connue, mais qui n'est pas si connue, je pense. On le connaît par nom, mais on ne sait pas tout à fait ce que c'est. Alors, je pense que c'est la bonne personne. Ouais. Si on commençait en écoutant un peu ton histoire pour qu'on comprenne mieux qui tu es.
Ben, écoute, d'abord, le syndrome de Tourette, c'est un syndrome.
Mais toi, t'as eu un diagnostic de ce type-là, c'est ça?
Ouais, ben, quand j'étais né, je le savais pas.
Non.
Je veux dire, les 8 premières années de ma vie environ, j'ignorais que j'avais un syndrome de Tourette. À un moment donné, c'est vraiment devenu évident. D'une part, parce qu'il y a des tics, il y a des compulsions, il y a comme différentes déclinaisons de la maladie qui font en sorte que ça peut devenir vraiment problématique quand t'es jeune.
Et ça a commencé vers cet âge-là, 8 ans, 10 ans?
Ça a toujours été là, mais c'est plus vers 7-8 ans que je l'ai découvert.
Okay.
Puis, c'est drôle parce qu'on a vu plusieurs psychologues qui, eux, savaient pas c'était quoi. Il a fallu attendre qu'on trouve une madame qui, elle, était proche de la retraite, qui savait c'était quoi.
OK.
Puis c'est ça, puis comme je disais, un syndrome, c'est pas une maladie. Une maladie, on sait les causes. Il y a des outils pour ça. Tandis qu'un syndrome, on sait pas trop c'est quoi. Mettons, t'as des pilules ou des affaires là-même qui peuvent aider, mais on sait pas vraiment c'est
mais
quoi.
Mais c'est quoi la différence entre un syndrome et une maladie? C'est un syndrome, c'est quoi? C'est un état, quoi?
C'est une maladie dont on sait pas les causes.
OK, d'accord. OK, c'est ça la différence.
C'est ça la nuance, tu sais, fait que... malheureusement, il faut bien que quelqu'un finisse par en parler ou que, tu sais, il faut savoir aussi qu'il y a, Il y a près de 40 000 personnes au Québec qui l'ont à différents niveaux.
Et le vrai nom, le nom complet, c'est syndrome Gilles Latourette, hein? Est-ce que c'est ça?
Ouais, raccourci, c'est SGT pour syndrome Gilles Latourette.
Parce qu'il y avait quelqu'un qui portait ce nom-là, quoi? Est-ce que c'est l'origine?
C'est un médecin, en fait, qui s'appelait... Là, c'est un nom vraiment long, là. C'est un petit peu comme Hergé, là. T'sais, c'est un nom vraiment long. On l'appelle, dans le fond, Gilles Latourette. Puis, de ce que j'en sais, c'est que... Parce que c'était en 1800 quelques... dans ce coin-là, qu'il y avait une madame qui, elle, gueulait tout le temps des mauvais mots. Puis c'était une madame dans la noblesse. Puis lui, il a étudié ça, puis tout ça. Puis c'est ça, ils ont donné son nom au syndrome.
À sa découverte, là. Ouais. Puis est-ce que c'est toujours ça, parce que c'est bien de pouvoir démystifier, est-ce que c'est toujours ça? C'est ça qu'on a en tête, que les gens vont dire, par exemple, vont avoir des... Vont sacrer ou vont dire n'importe quoi ou des choses qui sont pas... T'sais, ils ont l'air fâchés, mais ils sont pas vraiment fâchés. Est-ce que c'est toujours ça, le syndrome?
En fait, c'est une minorité des gens qui vont créer des mauvais mots. Okay. La plupart du temps, c'est... comment dire?
Des tics, peut-être?
Ouais, ben la plupart du temps, c'est ça. Là. T'as des tics, t'as des compulsions. Les tics, c'est pas la même chose que des compulsions. Non, mais il y a beaucoup à dire sur le sujet,
Mais toi, mettons, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 8 ans? Qu'est-ce qui a fait qu'on a consulté, que tes parents t'ont amené, j'imagine, consulter des gens?
En fait, c'est parce que je clignais souvent des yeux ou je raclais de la gorge ou whatever. Puis eux, ben, ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de faire en sorte de... Qu'est-ce qui se passe avec notre enfant? On comprend pas, on l'aime, mais t'sais, ils se contrôlent pas, whatever. Mais en fait, j'ai fini par comprendre que tu peux te contrôler. C'est pas comme le Parkinson. Tu peux te contrôler, mais c'est comme une genre de démangeaison.
OK.
Tu sais, mettons, de l'eau. Tu vas boire de l'eau pour étancher ta soif. Mais tu sais, sortir un tic, c'est un petit peu comme ça. Ça enlève une tension. T'sais. C'est contrôlable, mais ça enlève une tension. Puis, il y a différents degrés aussi. Il y a des gens qui sont plus malades que d'autres. Il y a des gens qui ont des tics tout le temps, là, qui peuvent pas, style, parler à la radio ou qui peuvent pas... Ils sont pris avec ça. Ça les submerge, puis c'est dommage.
Et avec l'âge, là. Moi, j'ai déjà connu quelqu'un dans le milieu de travail où il y avait... c'est ça, il y avait des tics, mais c'était plutôt de la manipulation d'objets, d'ordinateurs, souris, d'ordinateurs, tout ça. Puis il y avait comme des réactions très physiques, tu sais. J'imagine que c'était ça aussi. Là.
Ben, les tics, comme je disais plus tôt, c'est pas la même chose. Je veux dire, un tic, c'est spontané, c'est... T'enlèves la décharge tout de suite.
Ouais.
Moi, ce que j'ai surtout, c'est mon cas, mais c'est des compulsions. T'sais, je vais souvent, j'ai une obsession avec le chiffre 5, puis c'est le même parce que c'est le même.
Okay.
Puis souvent, je vais me craquer mes doigts de façon à ce que, t'sais, que j'aille craquer chacun des doigts, comme, mettons, une main, ben là, un doigt, c'est 5. Fait que là, ça fait 5.
5 fois chaque doigt.
Ouais, puis ça devient un petit peu débilisant, mais ce qui est le fun, c'est que ça affecte pas le QI ou rien.
Non.
Au contraire, fait que t'sais, c'est comme si... T'es pogné avec des défauts, mais ça a quelques avantages aussi.
Là. Jusqu'à ce jour, dirais-tu que c'est ça, t'as quand même... est-ce que t'es affecté par ça ou tu dirais que tu l'as quand même contrôlé?
Je l'ai contrôlé. Il a fallu que je tombe ado, que j'avais comme 13-14 ans avant d'avoir le contrôle là-dessus. T'sais. Ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir des moments pour expulser ça.
Okay.
Mettons, si tu sais que tu vas sortir, ou tu vas à l'école ou au travail, peu importe, ben t'es souvent le matin, ben, je fais mes tics avant de partir, ben, compulsion plutôt.
Pour être sûr que tu n'ailles pas à avoir ça en devant public ou
ouais,
c'est ça.
Ben, c'est ça, parce que c'est ridicule. Je ne vais pas enlever mes souliers pour me craquer les doigts en public. Là, c'est pas pendant tout ça. Ben, c'est ça.
Tu développes des trucs, en fait.
Ouais.
C'est ça.
Ben, je compense pour mon stress, mais évidemment, ça a comme l'avantage d'avoir de l'énergie.
T'es toujours allumé, en fait, c'est ça, ouais. t'es toujours là.
Il y a comme une genre de petite spark, whatever, qui est souvent là, mais c'est ça, des fois, c'est compliqué à vivre aussi, là. Des fois, je suis stressé, parce que là, tu peux pas rien faire, t'sais, c'est comme, fais tes tics, ça va passer.
As-tu trouvé d'autres moyens, je sais pas, du sport, je dis n'importe quoi, là, je connais pas vraiment, as-tu trouvé d'autres moyens, t'sais, qui peuvent t'aider à avoir moins de stress, là?
Écouter de la musique.
OK.
C'est quelque chose, je suis vraiment un mélomane fini, là.
Ça aide beaucoup, là?
Ouais. C'est tough d'être musicien, par contre, pour des raisons évidentes, là.
Ouais.
Je veux dire, parce que c'est le contraire de ce que je fais, c'est de désynchroniser, mais la musique, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, là. Je vais en écouter plusieurs fois par jour, puis plusieurs heures, puis c'est juste un plaisir, ça se perd pas, tu sais. Il y a une espèce de petit côté avec des obsessions aussi, là, que quand j'étais vraiment jeune... c'était les sciences qui m'intéressaient. T'sais. Puis éventuellement, ben là, j'ai changé ça pour de la musique. T'sais. Puis c'est comme un intérêt vraiment spécifique, mais t'sais, d'une année à l'autre, ça changeait. Puis éventuellement, je me suis dit, hey, si j'étais pour faire du ciné éventuellement, là, c'est devenu ma dernière obsession. Puis, okay. Vu que peut-être de quoi faire avec ça, ben c'est sûr que c'est une obsession qui est là depuis plus longtemps que les autres.
T'sais. Comment tu as eu à conjuguer, comme on parlait de quand tu as commencé à avoir des problématiques de genre-là, en fait, tes mm-hmm. parents, comment ils ont conjugué avec ça? Puis comment tu as conjugué avec ton entourage? Je sais pas si tu as des frères et sœurs ou des amis à l'époque, j'imagine.
Ouais, ben ce qui arrive, c'est que. Ils ont toujours vu que j'avais un petit quelque chose. T'sais, c'était rien de bien méchant ou whatever, mais t'sais, ça, évidemment, ça paraissait j'avais plus de tics à l'époque. Puis non, je pense qu'ils ont toujours été fins avec ça. Je veux dire, je suis quand même bien entouré. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Puis c'est dommage, mais t'sais, c'est des gens vraiment très bien. Puis quand c'est sorti, quand j'ai compris c'était quoi, c'était quasiment comme un soulagement. Ah, on sait ce qu'il y a, on peut faire quelque chose. Fait que c'est sûr que mes parents essaient de m'aider, de m'alimenter dans mes petits délires ou whatever, mais dans le sens que c'était lourd avant, là. C'était lourd, puis j'ai appris à le gérer, j'ai appris à en parler aussi. Moi, j'aurais adoré ça étant jeune, avoir une émission ou style de quoi qui en aurait parlé, que je puisse aller au ciné puis je vois, waouh!
Ça t'explique ouais, c'est ça, pour mieux comprendre.
Puis côté famille... Mon grand-père, il l'avait. Il avait ce syndrome-là, mais je ne l'ai pas connu. T'sais.
Dirais-tu qu'il y a un côté héréditaire dans la majorité des cas, ou d'après les recherches que tu as faites?
En fait, il y a un petit détail de même que souvent, c'est plus commun chez les garçons que chez les filles, de ce qu'on en sait. Mais évidemment, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de recherches, whatever, puis tout ça. Mais non, c'est un drôle de syndrome, en fait.
Puis comment tu te présentes aujourd'hui à 30 ans, des gens qui te connaissent pas, est-ce que tu les avertis? Ou là, tu nous en parles, puis c'est notre conversation est agréable.
Ce qui arrive, c'est qu'on... les gens trouvent que ça paraît pas. Je veux dire, puis c'est un vrai plaisir, parce que ça m'a pris du temps avant de le contrôler. T'sais, là, j'y pense même plus, puis... Ouais. Mais c'est ça. Des fois, c'est lourd, mais non, c'est un sujet qui est fascinant.
Peut-être faire de la radio serait peut-être un truc. T'sais. Peut-être que tu es dans un moment de zénitude. Puis,
ça me fait plaisir, moi, de discuter. Puis,
c'est surtout de démystifier ça, effectivement. Parce que on a toujours l'impression que c'est dangereux. Parce que quelqu'un qui crie fort, puis qu'on a l'impression, mais faut démystifier ça. T'sais. La personne n'est pas vraiment fâchée. C'est des fois plus fort qu'elle. Il y a comme un trop-plein.
Comment dire, il y a un côté impulsif aussi. Souvent, je vais donner dans mon côté impulsif, ça peut être, c'est niaiseux des fois, c'est, mettons, j'ai de l'impulsion, ben là, je vais aller m'acheter du chocolat, puis là, ben là, ça descend mon impulsion, puis après ça, je suis comme plus à l'aise, whatever, mais non, j'aime ça en parler, parce que c'est un sujet qui évidemment, je vis avec, mais que ça touche d'autres personnes, puis évidemment que ça me touche, je vis avec. Non, il y en a à dire.
Est-ce qu'il y a des journées où tu n'as pas vraiment d'effet du syndrome de la Tourette? Est-ce que ça arrive des journées où tu dis, hey, il me semble qu'aujourd'hui, j'ai rien eu de.
Ben, souvent, j'y pense pas. Mettons, c'est de la job. Comme, mettons, dans le transport commun, je vais être nerveux, mais aller travailler, d'être avec des gens, de socialiser, c'est pas la même chose.
Ouais. C'est le fait de ne pas y penser, en fait. Il faut quasiment que tu t'occupes. C'est un peu ça.
Ben, c'est que j'y pensais tout le temps, puis quand j'ai eu la twist, là, j'y pensais plus. Puis. Là, c'était splendide. Je veux dire, mais oui, j'ai encore des compulsions, des tics, mais c'est comme mon petit instant privé ou whatever. Mais finalement, c'est quelque chose.
Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui nous écoutent qui ont ce genre de symptômes-là? Est-ce qu'ils ne sont pas très sûrs si c'est ça? Ils devraient commencer où? Est-ce qu'ils devraient consulter un médecin? Est-ce qu'ils devraient lire sur le sujet? Qu'est-ce qu'ils devraient faire?
Peut-être un petit peu des deux. Je pense pas que la solution, c'est 100% le médecin. C'est pas 100% non plus la quête personnelle. Je veux dire...
Il y a beaucoup de choses qui existent, j'imagine, qui expliquent la situation. T'sais, si quelqu'un lit un peu sur Internet ou par des livres, j'imagine qu'il va comprendre un peu plus. Si c'est ça, il va peut-être se reconnaître.
Ben, c'est que c'est des... On est des gens très bien, là, si on peut parler d'une communauté, qu'elle existe ou non en ce moment, mais c'est des gens très bien. Là.
Une quarantaine de mille personnes, tu disais,
ouais,
au Québec.
Oui, c'est un petit village. Ou même une petite ville, tu sais, je veux dire. C'est des gens, c'est qu'on se connaît pas ou on se parle pas. Et c'est normal, parce que c'est de quoi qui est méconnu. Il y a un paquet d'autres syndromes que... Qui ont leur mystère aussi.
Oui. As-tu déjà échangé avec d'autres personnes qui ont le même syndrome? Ouais. Des fois, ils disent que les groupes peuvent aider. Là.
Ben, une fois, quand j'étais ado, j'ai été dans un camp de tourettes. En fait, c'était un camp, mais cette semaine-là, c'était des tourettes puis des autistes.
OK.
Là, cherche-moi le lien, mais ils ont quand même fait ça. Puis, non, c'était drôle. Il y avait juste un bonhomme qui lui sacrait avec des gros mauvais mots, whatever. J'étais un cas qui n'était pas si sévère que ça. T'sais, il me disait le tue, t'sais, alors que les autres étaient bourrés de tic, whatever. Mais. C'est une expérience assez spéciale, je veux dire, de côtoyer des gens qui ont le même trouble, mais que c'est pas au même degré ou de la même façon. T'sais. On n'avait pas les mêmes tics. Moi, finalement, je m'en tirais bien. J'avais bien des amis ou whatever, parce que j'étais comme normal, entre guillemets. Mais il y en a un, il avait comme ses tics vraiment intenses. Puis,
ça paraissait beaucoup. Là,
ouais, c'est ça. Puis nous, on essaie. Ben, moi, j'essaie de pas le juger, mais c'est comme s'il se sentait exclu, même parmi nous autres, parce que ouais. C'était comme une minorité. T'sais. C'était comme, ah, tu donnes une mauvaise image, mais. Je trouvais ça comique, étant souvent c'était moi qui vivais la situation.
Ben, peut-être exclu, que t'étais, peut-être même ça t'a rassuré en disant ben finalement je suis pas si pire, là, en voyant des cas plus graves. Là,
non, mais c'est ça qui est comique, c'est que c'est finalement c'est pas grand chose. C'est grand chose, mais c'est pas grand chose.
En même temps, c'est ça, c'est pas comme une maladie qui est. On parle pas de santé mentale, on parle pas de maladie mentale, en fait, c'est comme tu dis, c'est un syndrome, mais il y a vraiment lieu à démystifier, mais on a commencé à le faire cette fois-ci. Je te remercie de ton partage.
C'est gentil,
ça a passé vite, tu vois, c'est vraiment bien.
C'est vrai que c'est vite.
On pourrait sûrement y revenir. Merci beaucoup, Cédric Dagenet, donc d'avoir été des nôtres. Des bonnes continuations dans toutes tes activités, puis je te souhaite la meilleure santé possible et le meilleur le bien-être possible, en fait, pour la suite.
Merci beaucoup. Okay. Ça fut un plaisir.
Merci. Au revoir.
Je n'irai pas jusqu'à dire que mademoiselle a le bec fin. Je me contente de rire lorsqu'elle se fait servir et qu'elle check sa tranchée de pain. Pas trop piqué sur les fruits, ni sur la cuisson des omelettes. En autant que son beurre soit un vrai beurre, jamais trop dur ni trop frais. Et si tu oses mettre autre chose sur ses toasts dans une assiette.
Soyez branchés, déboussolés, renfermés ou éclatés, vous s'étonisez actuellement Folie Douce.
Nous poursuivons avec le sujet, débuté plus tôt, Pierre, ton sujet de l'espresso allongé cette fois-ci, la peur de l'engagement.
Oui, la peur de l'engagement. Et on a appris tantôt que c'est au Québec, on est le
champion mondial. De la médaille d'or de ça.
Ben en fait, on nous dit ici qu'on est leader mondial des unions libres. Ben
c'est ça, on a la médaille d'or au monde pour la peur de l'engagement.
Est-ce qu'on devrait être fier ou...
Peut-être que oui. Peut-être que c'est un sens de maturité, je ne sais pas.
Peut-être,
ça dépend toujours.
Mais de toute façon, alors j'étais en train de lire mon deuxième article sur le sujet. C'est celui qui s'appelle « La peur de l'engagement, s'empêcher d'avancer par peur du rejet ». J'ai pris ça sur le site marieclaire.fr. Oui. Écrit par une dame du nom de Gwendoline Goudichaud.
Et de toute façon, Pierre, en fait, la peur, l'engagement, l'union libre, il y a des gens qui peuvent être en union libre puis peuvent être engagés ensemble pendant tout le temps, pendant des années. Alors, tu sais, c'est pas une... tu parlais tantôt de mariage, mais c'est vrai que, oui, on est les champions de l'union libre, mais peut-être faudrait voir si la durée des couples ou des...
Oui, c'est vrai.
Si ça dure dans le temps.
C'est vrai, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose.
Non, c'est ça.
C'est peut-être plus un signe des temps. Il
faudrait aller chercher la statistique plus loin, de dire est-ce que ces couples-là, finalement, se restent quand même ensemble. Donc,
oui,
c'est ça.
Exactement. Alors, je poursuis ma lecture. On nous dit, au fond, les gens se rendent compte de leur stratégie d'évitement quand ils commencent à se dire que c'est étrange que toutes leurs relations se terminent de la même façon. En cas de scénario répétitif, c'est intéressant de se poser la question. Généralement, ça va faire effet miroir et nous donner des indications sur ce qu'on est. Madame Catherine Demangeau, qui est thérapeute de couple, nous dit « La peur ne peut être supprimée. » D'ailleurs, ça ne serait pas intéressant. La peur, c'est une émotion qui n'est pas agréable à vivre, mais qui nous donne des indications très importantes qu'il ne faut pas négliger. Si j'ai peur, c'est que c'est important à mes yeux. Là, il y a un enjeu d'importance pour moi, donc je dois prendre soin de moi et de ma relation.
Et moi, je le vois, la peur de l'engagement, c'est un peu aussi la prudence. Tu sais, la peur, c'est pas nécessairement négatif. C'est-à-dire, on peut avoir peur parce que c'est une grosse décision qu'on fait.
Oui. Justement, la peur, ça peut être justifié.
Ça peut être justifié, puis ça peut être une prudence.
Hein. Oui. La première chose à faire est donc d'identifier sa peur plutôt que de vouloir la mettre sous le tapis. Il faut arriver à en prendre conscience et à la traverser. Si on a une stratégie d'évitement et qu'on essaie de contourner notre peur, ce ne sera jamais résolutoire. Mais si on l'identifie, on va la traverser en se disant que de toute façon, une assurance couple, ça n'existe pas. Et il y a toujours dans l'engagement une part de doute, il y a forcément des peurs. Ce qui compte, c'est qu'elles ne soient pas paralysantes et qu'on puisse les accepter et vivre avec.
Et le grand défi, c'est de trouver l'âme sœur.
Juste la bonne personne.
La bonne personne, c'est ça l'enjeu.
Exactement,
ici,
oui.
Je pense.
Une autre chose rassurante à avoir en tête, l'engagement, c'est quelque chose qui se fait étape par étape. Le temps est nécessaire à la construction d'une relation de confiance. Madame Demangeau nous dit « Le couple peut être une merveilleuse opportunité d'apprendre à grandir ensemble. Seulement, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, celui de se transformer en sauveur de son partenaire. Cela va créer un déséquilibre qui peut mettre à mal la relation. La meilleure chose que l'on puisse faire, c'est être bienveillant avec lui et de l'accepter tel qu'il est. » Lui demander ce dont il a besoin afin d'arriver à être plus en sécurité dans la relation et l'encourager à exprimer ses désirs et ses besoins. Comment faire? En lui montrant que nous-mêmes, on peut prendre la responsabilité d'exprimer nos besoins et nos désirs. Encore faut-il ne pas l'envahir pour ne pas lui donner un sentiment d'incompétence. On a tous des résistances ou une zone aveugle et ce n'est pas grave. La clé est l'ouverture vers l'autre et son univers sans juger ou sans être critique. Il faut avoir beaucoup d'amour et de bienveillance pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, tout en s'acceptant soi-même. Madame Demangeau continue en nous disant « Il faut créer un climat où tout peut se dire sans être obligé de tout se dire. C'est aussi important de se disputer. »
Mais avec le bon ton, ça.
Oui,
probablement. Avec le bon ton.
Oui. Ouais. Alors, elle nous dit en effet, une dispute est synonyme de challenge bienveillant. Aussi, dites-vous bien qu'un adulte mature, effectivement, va attendre de son partenaire qu'il le satisfasse au grand maximum à 25% de ses attentes. Pas plus.
OK.
C'est un peu surprenant. Dans la peur de l'engagement, il y a parfois la peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on s'attend à devoir répondre à presque toutes les attentes de notre partenaire. Or, c'est 25 % maximum. Le reste, c'est à moi de les prendre en charge. Je suis responsable de mon bonheur et en même temps, je te demande de l'aide pour certaines choses. Avec ces proportions en tête, on laisse tomber les attentes irréalistes et on s'accepte mieux, tout comme la relation qu'on construit.
Et tant qu'à moi, il ne devrait même pas avoir d'attente. Dans le sens que, on pourrait philosopher longtemps, mais tu sais, moins tu as d'attente, moins tu es déçu, en fait. C'est un peu ça, là.
Oui, mais il me semble qu'il faut que tu en aies quand même un petit peu d'attente, non?
Faudrait élaborer mon manque de temps. Alors, une autre fois.
Ouais, alors, en conclusion, on nous dit, enfin, les gens aiment moins entendre cette vérité, mais quand on s'engage, rien ne nous empêche de nous désengager. Pour le faire de manière saine et non le vivre comme un abandon ou un rejet, il faut prendre soin de cette période de rupture. On peut se dire qu'on se remercie pour avoir grandi ensemble et se souhaiter bonne route, car vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter une part d'incertitude.
Mais ça prend une grande maturité, une grande expérience pour faire ça, parce que je connais pas grand monde qui est facilement à l'aise comme ça à se dire ben c'est beau, ça m'a fait plaisir, au revoir à la prochaine et bonne chance.
Ouais, il y a toujours une douleur qui va avec ça, j'imagine.
Effectivement, parce que c'est un on le disait tantôt, c'est un sujet vieux comme le monde, là, l'engagement, la vie de couple, les relations humaines.
Oui, j'aurais aimé qu'on rajoute une statistique, tu sais, du nombre d'unions,
ouais,
puis le nombre de divorces ou de ruptures.
Ou de longévité des unions, tu sais, la majorité, tu sais, il y a une moyenne de temps d'années, etc. Mais c'est un bon sujet, mais c'est beaucoup pour ça, Pierre, la peur de l'engagement.
Au matin, je me rappelle, je t'ai dit je te rappelle. Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui ? J'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer.
Si toi te souviens, tant mieux pour toi. Moi je n'ai rien que de blablabla. Bla bla. C'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me baby, 'cause I can't remember you. Les souvenirs manquent à l'appel. Les souvenirs, oh toi tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs manqués.
Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit. Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie. Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu. Difficile d'être un étranger à tes yeux. Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi, des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie. De nos gestes et enfin de nos corps en vie. Et du reste, à la fin, j'ai encore envie.
Envie de quoi ? Envie de qui ? Mais de quel corps ? Mais de quelle nuit ? Comment te crois tout ce que tu disais? Si, franchement, j'ai oublié. Les souvenirs manquent à l'appel. Les souvenirs, oh toi tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs manqués. C'est qui?
Bah, c'est moi, le mec de la soirée.
Alors?
Du coup, on te soit?
Comment?
Oh là, je te dérange.
Je dors.
On s'était dit qu'on allait se revoir.
Mais quand?
Mais tu vois qui je suis ou pas?
Aucune idée.
Mais tu m'avais dit de te rappeler.
Ah bon?
Pourtant, l'autre nuit...
J'ai oublié.
Les souvenirs manquent à l'appel. Les souvenirs, oh toi qui te rappelles.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous. Alors, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission. La première, « Je sais plus comment t'aimer ».
Oui, de Caen.
On a entendu « Santé ».
De Stromae.
Celle-là, attention, « La pureté du beurre, pur 100% pur beurre ».
Oui, de Blue Jeans Bleu.
J'ai des babines beurrées un peu en disant ça. Et à l'instant, « Souvenir manqué ».
De Grand Corps Malade et Mélodie Gardeau.
Merci beaucoup pour ce choix musical ainsi que ton travail en régie.
Bienvenue, mon cher.
Et merci également pour tes segments espresso et allongé où ton sujet était la peur de l'engagement. Mm-hmm. Nos invités en début d'émission, Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin, cette fois-ci à titre d'invités non chroniqueuses, nous ont expliqué leur OSBL sort de ma tête. Notre invité en début de deuxième demi était Cédric Dagenais. Il nous a mieux fait connaître le syndrome de Gilles de la Tourette. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.